Il faut se rappeler que la première épître à Timothée nous montre la maison de Dieu en ordre. Et le chapitre 3 que nous commençons nous indique que tous ceux qui y exercent une fonction, eh bien, ils doivent être marqués par des caractères moraux nécessaires parce que c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas chez nous, mais nous appartenons à la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et nous pouvons relire ce verset 15, l'apôtre donc 14, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Alors ce chapitre est introduit par une expression, cette parole est certaine. Et cette expression fait le lien entre ce qui vient d'être dit dans le chapitre 2 et souligne l'importance de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce que nous venons d'exprimer dans le résumé, c'est que la maison de Dieu est une maison de prière, est une maison de prière pour toutes les nations. Et ainsi, la maison de Dieu a un caractère évangélique. Et il nous est dit aussi que les hommes et les femmes qui composent cette maison doivent se comporter avec piété. Et dans la deuxième partie de ce chapitre 2 est évoqué l'ordre dans la création, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme selon Dieu dans la création et quelle est la place de la femme. Et si nous avons ce désir que la maison de Dieu soit en ordre, eh bien, il faut que les instructions qui nous sont données d'abord dans ce chapitre 2 soient observées par ceux qui composent cette maison. Alors cette expression, cette parole est certaine, nous la trouvons dans le premier chapitre, au verset 15, cette parole est certaine et digne de toute acceptation. Ici, cette parole est certaine, c'est-à-dire que l'apôtre donne des instructions à Timothée et il souligne l'importance de ces instructions. Trouvons aussi cette expression dans le chapitre 4, au verset 9, cette parole est certaine et digne de toute acceptation. Nous la trouvons encore dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 11, cette parole est certaine. Et enfin, dans l'épître à Tite, au chapitre 3, au verset 8, cette parole est certaine. Et je veux que tu insistes sur ces choses. Donc, nous voyons que les instructions que l'apôtre Paul donne à Timothée, le désir de Paul, c'est que ces instructions soient suivies. Et les instructions, donc, nous allons nous en occuper maintenant. Et alors, là, après cette parole est certaine, il nous est dit que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Et comme nous l'avons dit un peu avant, il nous est parlé donc d'abord des surveillants. Et deuxièmement, au verset 8, il nous est parlé des serviteurs et aussi, d'une certaine façon, des servantes. Donc les instructions qui nous sont données sont tout spécialement pour la maison de Dieu et pour l'ordre de la maison de Dieu. On peut s'arrêter encore peut-être sur le mot « si quelqu'un aspire à la surveillance ». Donc un frère d'expérience ou un frère âgé peut aspirer à la surveillance. C'est un désir que Dieu reconnaît et il désire à ce moment-là une œuvre bonne. Nous avons aussi une expression un peu semblable dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14. Corinthiens 14, verset 1er. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Et alors, on a appelé cela des saints désirs, saints S-A-I-N-T-S. C'est-à-dire, nous pouvons avoir ce désir, selon Dieu, d'avoir des dons pour l'Assemblée, pour son édification. Et dans la première épître à Timothée, nous voyons qu'un frère d'expérience, âgé, marié, peut avoir ce désir d'être un surveillant dans les assemblées. Dans une assemblée. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 14, il nous est dit en tout début de chapitre, c'est poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. Dans la première épître à Timothée, il faut que le frère qui désire qui aspire à la surveillance, soit animé par l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le Seigneur et l'amour pour tous les saints. Le mobile qu'il doit être dans le cœur de celui qui aspire à la surveillance ne peut être que l'amour. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour Dieu. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour tous les saints. Donc chapitre 14, il nous est dit donc de désirer avec ardeur les dons spirituels. Dans 1 Timothée, il ne s'agit pas de dons, il s'agit d'une charge et d'une fonction dans l'Assemblée. Dans 1 Corinthiens 14, il s'agit des dons. Et les dons sont pour tout le corps. La différence entre une charge et une fonction dans l'assemblée, 1 Timothée, c'est une charge, c'est une fonction dans une assemblée locale. Le désir d'avoir des dons spirituels pour édifier, dans 1 Corinthiens 14, c'est pour tout le corps. Un don est pour tout le corps. Si l'on désire se pencher sur la question, il faut en particulier revoir 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Donc si les dons sont recherchés et désirés pour le bien de l'Assemblée, nous voyons qu'ils ne doivent pas être recherchés pour se mettre personnellement en avant ou pour se distinguer, mais uniquement pour le profit et la bénédiction de tous. Les dons, ce sont les sont distribués à chacun par le Saint-Esprit. C'est à chacun, mais ils sont pour le bien de tous.
Lors du premier voyage missionnaire de Paul, chapitre 13 et 14 du livre des Actes, on voit à la fin du chapitre 14 que sur leur chemin de retour, après avoir visité plusieurs endroits où des assemblées se sont formées, soit issues des Juifs, soit des nations, selon les endroits, soit les deux, au chapitre... On peut lire à partir du chapitre 21, du chapitre 14, verset 21, ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissaient que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Leur ayant choisi des anciens. Si on lit au chapitre 20 des Actes, on va peut-être d'abord lire dans Tite, début de Tite, au verset 5, les instructions que Paul donne à Tite. Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. Et puis suivent des caractères que doivent porter ces anciens qui rejoignent un peu des choses qu'on a lues, on pourra y revenir. Mais je voudrais surtout m'arrêter à ce qui est au verset 7 où il nous est dit « Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu ». Il doit nommer des anciens et qui sont appelés, là, au verset 7, des surveillants. Donc, ça nous fait le lien avec ce chapitre 3 de 1 Timothée, où il nous est parlé de quelqu'un qui aspire à la surveillance. On retrouve la même chose en acte 20, où Paul appelle, fait venir, verset 17, de Milet à Éphèse, verset 17, « Or, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée ». Donc les anciens de l'assemblée d'Éphèse. Et au verset 28, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant. » Donc on voit le lien ancien surveillant. C'est deux manières d'appeler la même charge, avec chacun des deux mots qui présente un caractère propre. Et puis dans ce verset 28, le verset continue, l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Alors d'abord, si on prend ces deux noms, ancien et surveillant, ancien fait référence à quelqu'un qui a, si on reprend l'expression de Hébreu 5, si je me souviens bien, je vais trouver un passage... Hébreux 5, oui, et verset 13, « Quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il a un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Le côté des hommes faits, l'ancien, c'est un peu ce côté-là. À noter d'ailleurs que c'est le même terme dans l'original qui sera utilisé quand Paul met en garde Timothée sur la manière de s'adresser, je retrouve le verset, chapitre 5, verset 1, ne reprend pas rudement l'homme âgé, c'est le même mot qu'ancien ailleurs. Donc le même mot qui a tantôt le sens plutôt de l'âge, et dans le cas de la charge, plutôt le sens de l'expérience acquise dans une course avec le Seigneur. L'ancien n'est pas forcément un vieux frère, si je peux dire les choses comme ça. Mais c'est un frère qui a une certaine course avec le Seigneur. On remarque que dans Acte 14, il s'est passé relativement peu de temps entre le moment où Paul et Barnabas sont venus dans ces endroits et leur chemin de retour où ils ont nommé des anciens. Donc ce côté d'ancien, il faut bien le comprendre comme n'étant pas synonyme dans le contexte de la charge de l'homme âgé. Et puis alors, le côté du surveillant, c'est plus ce côté de celui qui veille, celui qui observe et qui veille pour sentir, voir les besoins individuels et collectifs. Et dans l'acte 20, c'est très beau comment c'est dit, l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée, pour apporter la nourriture. Je pensais, on a évoqué ces choses hier à Mulhouse, à Réunion des Frères régionale, et justement ça m'est revenu après, pour illustrer ce côté de cette fonction de surveillant. Je repensais à un voisin, dans les Vosges, qui était chevrier, et la manière dont il nourrissait ses bêtes, et il les mettait à cornadier, bloqués, à la mangeoire, il leur donnait la nourriture, et puis après, une fois qu'elles avaient mangé, il s'occupait de les traire. Et puis, quand il nous remettait cette nourriture, il regardait. Il y avait toute une enfilade avec toutes ces têtes qui dépassaient, et il regardait les bêtes, comment elles mangeaient. Et puis après, quand il allait traire, chaque bête, avant de s'asseoir derrière elle pour la traire, il la regardait. L'aspect du poil, l'aspect des mamelles, voilà. Apprécier l'état. Et je me rappelle d'un moment particulier, une fois, il y avait une de ces chèvres, il était devant, il venait de mettre la nourriture, qui ne mangeait pas et qui était là, la tête dressée. Il a rigolé. Ah ben oui, c'est normal, elle n'est pas à côté de sa copine. Donc il est allé derrière, il a enlevé la chèvre qui était à côté d'elle, il l'a échangée avec une autre, pas n'importe laquelle, et une fois qu'elles étaient les deux côte à côte, elles se sont mises à manger toutes les deux. Ça pour illustrer le rôle du surveillant, qui voit l'état, qui surveille l'état pour répondre aux besoins. Et il est parlé de paître le troupeau. On retrouve la même pensée, on l'a aussi évoqué hier dans 2 Pierre 5, je ne vais pas le relire, chacun peut lire pour lui-même, le début de 1 Pierre 5, où Pierre justement, qui dit bien, moi qui suis ancien avec vous, donne des recommandations aux anciens, où on retrouve ces mêmes termes de surveillant, de paître, du troupeau, etc. Et là, je voudrais faire remarquer que la distinction qu'a fait Michel entre don et charge, il est important de la faire, mais pourtant, en même temps, elles ont des choses en commun. On a vu que le surveillant, aux anciens d'Éphèse, il dit « L'Esprit Saint vous a ». Les charges sont données de Dieu par l'Esprit Saint. Au même titre que les dons, des capacités, des dons particuliers, sont donnés par l'Esprit Saint, c'est Dieu qui les donne. Et puis, on a un pont entre ces deux choses, parce que quand il s'agit de paître, ça fait référence au pasteur, au berger. Or, on voit ailleurs le don de pasteur. Le don de pasteur qui n'est pas synonyme d'être ancien. Mais par contre, il est dit de l'ancien, du surveillant, qu'il doit avoir cette capacité de paître, de nourrir, et donc de veiller à ce qu'on peut appeler l'état de santé du troupeau, des individus du troupeau. Le passage de Tite à cet égard-là est intéressant, parce qu'on va y revenir certainement. On a des caractères qui sont donnés, qui n'apparaissent pas là, ou qui complètent ceux qu'on a là, avec tout ce côté où surveillant, c'est apporter des soins. C'est soigner. La nourriture est la première chose. Et puis après, il y a tous les autres soins. Soigner quand il y a maladie, par exemple, tout particulièrement. Ou c'est plus individuel. La nourriture est plus collective. Après, il y a des aspects qui vont être plus individuels. Et à ce sens-là, on comprend bien pourquoi Paul peut dire à Timothée, si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. Oui, c'est un désir. C'est un bon désir aux yeux de Dieu d'avoir à cœur les soins du troupeau. C'est quelque chose qui est, qui est une bonne chose. Et alors la suite, ce sera, oui, mais alors attention, il y a des conditions, non pas dans le sens d'un examen de passage, si je peux dire, mais des critères importants aux yeux de Dieu, auxquels il faut avoir été rendu attentif et exercé pour pouvoir y répondre.
Encore une remarque. Il ressort du Nouveau Testament que les anciens et les surveillants n'étaient nommés que dans des assemblées qui étaient issues du paganisme. Et ces anciens, ces surveillants, étaient établis dans des assemblées jeunes et inexpérimenté, et afin bien sûr de maintenir l'ordre. Si nous lisons attentivement les actes des apôtres, nous voyons que dans les assemblées de Jérusalem et de la Judée, il y avait déjà des anciens sans que nous lisions qu'ils ont été nommés ou qu'ils aient eu cette investiture de la part des apôtres. Et nous savons que c'était une tradition chez les Juifs, dans le peuple d'Israël, qu'il y ait des anciens. Si nous lisons attentivement l'Ancien Testament, même dans les Évangiles, et nous savons même qui nous est précisé qu'à Jérusalem, il y avait le conseil des anciens. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait une grande importance de la cellule familiale. Et dans la cellule familiale, il y avait des anciens qui étaient respectés. Et nous voyons donc que cette chose n'a pas été spécialement reprise à Jérusalem et dans les assemblées de la Judée, mais ces anciens, ces surveillants, ont été établis par les apôtres ou par les délégués des apôtres, comme Tite, et aussi sans doute comme Timothée, bien que cela ne nous soit pas dit expressément. Et répéter que donc dans la parole de Dieu, le surveillant avait une fonction dans une localité. Et comme il vient de nous être dit, donc nous trouvons trois mots dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la surveillance, qui nous parlent de cette fonction dans les assemblées. Il y a d'abord donc les anciens, avec un mot grec spécifique. Ensuite, il y a les surveillants, c'est un autre mot grec spécifique. Et un troisième mot, ce sont les conducteurs. Et il s'agit sans aucun doute de plusieurs aspects ou de trois aspects qui concerne les mêmes personnes qui ont cette fonction et cette charge dans une assemblée locale. Les anciens nous parlent de frères d'âge quand même, par anciens, ça veut dire bien ancien ou d'un âge avancé. Et donc le mot ancien nous parle de maturité et d'expérience acquise dans la vie chrétienne, qui sont nécessaires pour avoir cette fonction dans une assemblée locale. Les surveillants nous parlent plutôt d'un, ou se réfèrent plutôt à un travail effectif. Les anciens nous parlent plutôt de l'âge, mais un surveillant, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il veille, il surveille. Et il s'agit d'un travail qui est actif, c'est-à-dire on ne peut pas s'occuper du troupeau de Dieu en restant simplement à la maison. Et il faut s'occuper dans leur situation propre, chaque brebis du troupeau de Dieu par les surveillants. Le troisième terme, c'est les conducteurs. Et il nous est parlé des conducteurs dans Hébreux 13 en particulier, et aussi dans 1 Thessaloniciens 5. On pourra peut-être y revenir. Eh bien, les conducteurs font appel plutôt, ou cela fait appel, le mot fait appel plutôt à leur capacité spirituelle. Capacité spirituelle pour diriger dans les affaires et dans les affaires administratives de l'Assemblée. C'est conduire et guider. Et nous comprenons que la charge de surveillance est une charge qui est complexe, qui est difficile, qui demande de la piété, d'être proche de Dieu, d'être proche du Seigneur. Et c'est quelque chose qui est quelque chose à porter, mais une chose sans aucun doute qui est difficile. Difficile pourquoi ? Eh bien, difficile parce que nous sommes arrivés sans doute dans la vie de l'Assemblée à ces temps de la fin, bien que dans 1 Timothée, il nous est parlé de la maison de Dieu qui est dans l'ordre et quelles sont les instructions que Dieu nous donne pour que cet ordre soit maintenu. Nous n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans des temps fâcheux et nous savons que pour que l'ordre soit maintenu dans l'Assemblée, eh bien, il y a une place pour les surveillants, pour les anciens, pour les conducteurs, et il y a des places aussi pour les serviteurs, les servantes, et c'est dans cette mesure où la place de chacun pourra être maintenue qu'il y aura ce bon ordre dans l'Assemblée de Dieu. Il faut donc faire la part des choses entre la définition de ce qu'est un surveillant, un ancien ou un conducteur, la définition. Ensuite, ce qu'on a évoqué dans Acte 20, en quoi consiste cette fonction. Et troisièmement, ce dont nous sommes occupés dans 1 Timothée 3, ce sont les conditions morales, les exigences de Dieu pour être un surveillant. Et les exigences que nous trouvons posées dans 1 Timothée 3 ne sont pas superflues, et tout chrétien sérieux devrait y satisfaire. Les conditions morales qui sont données, et positives et négatives, eh bien, ce sont des exigences, non pas seulement pour quelques frères de l'Assemblée locale, mais ce sont des exigences morales pour tous, pour les frères, pour les sœurs, pour les plus jeunes comme les plus âgés. Il ne faut pas faire une distinction, pour les uns c'est bien et pour les autres non, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons dans la maison de Dieu et donc Dieu pose ses exigences auxquelles nous devons tous satisfaire.
Et il est certain que quand on regarde cette liste que nous avons devant nous, bah déjà le premier mot nous sonde et nous laisse pensif, en tout cas, chacun pour lui-même. Il faut que donc le surveillant soit irrépréhensible. Et je crois qu'il peut être profitable que nous lisions la liste parallèle que Paul donne à Tite, où il donne un peu les mêmes choses, dans un ordre un peu différent, et puis formulé d'une manière qui nous aidera un peu à entrer dedans. On y retrouve vraiment, c'est le même sujet qu'il présente à Tite. Il dit les choses différemment parce que Tite va être dans un autre contexte, et c'est vraiment dans Tite, c'est dans un contexte très précis. Je t'ai laissé en Crète pour cela. Voilà. Alors que quand Paul le dit à Timothée, c'est plus un enseignement plus général. Sache ceci, ce qui concerne la surveillance, quand tu seras confronté à cette question. Ce n'est pas pour une circonstance particulière qu'il lui donne ces choses, ces instructions. Alors si je lis ce qui est donné à Tite, je reprends au verset 5, ce que j'avais lu avant, et puis on peut lire les versets qui suivent. Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient pas accusés de dissipation ou insubordonné, car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole sur la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. On voit qu'on retrouve les mêmes thèmes, en grande partie, avec simplement une manière de les dire un peu différente, qui nous donne des éclairages. Si je prends qu'un point, un peu dans le désordre, quand dans Timothée les dit propre à enseigner, à Tite, ce sujet est beaucoup plus développé, parce que Tite est dans une situation où il a besoin que Paul lui rappelle ces choses-là. Il faut que le propre à enseigner devienne tenant ferme la parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Et je n'ai pas lu la liste, j'ai pas lu la suite. La suite, c'est car il y a beaucoup d'insubordonnés. Donc ce point est développé pour Tite, parce que Tite est dans une situation où il doit être particulièrement vigilant sur ce côté-là. Dans Timothée, les choses sont dans un ordre plus, je ne sais pas comment dire, mais c'est les caractères qui sont simplement énumérés sans les développer, mais avec ce premier caractère irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est-à-dire, pour dire le mot autrement, avec une marche qui ne donne aucune prise à une critique à la lumière divine. Le monde trouvera forcément des critiques, mais ce n'est pas le monde qui est là, il n'est pas question du monde, c'est le regard de Dieu. Donc une marche qui ne donne pas irrépréhensible, qui ne donne pas de prise à une répréhension, à une nécessité de corriger quelque chose. Quelque chose sur lequel nous pouvons bien réfléchir. La chair réagit tellement facilement.
Juste une remarque sur dans la première épître de Pierre. Premier chapitre, verset 19, il nous a parlé du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le terme est extraordinaire parce que sans défaut, c'est pur. Et sans tache, il n'y avait aucune contamination possible par le péché. Et donc, le Seigneur a été cet agneau sans défaut et sans tache. Et alors là, on trouve cette expression, je crois, uniquement dans la première épître de Pierre. Et le mot qui est reproduit, je crois, 5 fois dans les épîtres, le mot irréprochable ou irrépréhensible, eh bien, s'applique à nous. Et la racine du mot sans défaut et sans tache, en ce qui nous concerne, c'est la même chose. Nous sommes saints, mais nous devons nous comporter comme des saints. Soyez saints comme moi, je suis saint. C'est-à-dire, au fond, le Seigneur a été cet agneau sans défaut, pur et sans tache, sans contamination. Mais l'exemple qui nous est montré, vers lequel nous devons tendre, c'est d'être irréprochable comme lui, il a été irréprochable. Irrépréhensible comme lui a été irrépréhensible dans sa vie. Et dans Philippiens, par exemple, Philippiens 2, il nous est dit, je ne me souviens pas je sais qu'il y a 5 fois cette expression, dans Philippiens 2, il nous est dit, verset 15, afin que vous soyez sans reproche et purs. Le Seigneur a été sans reproche et pur. Et nous devons suivre un tel exemple. Et les surveillants ou les anciens, les conducteurs dans les rassemblements, dans les assemblées locales, doivent être des exemples. Eux-mêmes doivent suivre le Seigneur dans ce qu'il a été, dans sa pureté. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas arriver à cette borne haute, ça n'est pas possible. Mais c'est quelque chose que quelqu'un qui aspire à la surveillance, eh bien, il faut qu'il soit irrépréhensible. Et alors, on a dit que irrépréhensible, c'est la première qualité qui nous est donnée dans 1 Timothée. Et il semble que c'est une qualité générale et qui résume toutes les autres qualités qui se suivent et qui suivent. Et les autres caractères qui nous sont donnés sont plutôt une explication détaillée sur ce mot irrépréhensible. Et c'est-à-dire, au fond, un surveillant doit être irrépréhensible, c'est-à-dire, au fond, aucune accusation ne peut être portée contre lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans des affaires, on va dire, douteuses ou des pratiques douteuses ou discutables dans sa vie. Et donc la première grande qualité, c'est qu'il soit irrépréhensible et qu'il n'y ait pas d'accusation qui ne puisse être portée contre lui. Peut-être on peut aborder la deuxième, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Et mari d'une seule femme, ça nous montre d'abord qu'un surveillant, c'est un frère. Il ne nous est pas dit une femme mariée à un seul mari, mais il nous est dit donc mari d'une seule femme. Et donc il s'agit bien d'un frère expérimenté et d'un certain âge qui est appelé à la surveillance. Et c'est-à-dire qu'il est marié et ainsi il peut accomplir cette surveillance auprès des familles, il peut accomplir cette surveillance auprès des, des sœurs ou des femmes, et aussi des jeunes filles, ce qui ne serait sans doute pas convenable dans certains cas si c'était un célibataire. Et nous voyons donc que cette expression « mari d'une seule femme » a une portée importante, c'est-à-dire c'est un homme qui est marié, qui a connu ce que c'est que le mariage, et que et qu'il a connu sans doute tout ce qui peut concerner la vie dans un foyer chrétien. Et le fait que ce soit un mari d'une seule femme aussi parle plutôt de la pureté dans sa vie conjugale. Chez les Grecs et les Juifs, la bigamie ou la polygamie n'était pas pratiquée d'une manière habituelle, surtout pas. Hein, c'était un des commandements divins, c'était mari normalement à une seule femme. Et donc, cela nous montre l'importance pour un surveillant, d'abord d'être irrépréhensible et être marié, mari d'une seule femme, et que aussi que son foyer soit en bon ordre.
Je voudrais apporter une précision peut-être pour les plus jeunes. On a parlé de conducteurs, on a parlé d'anciens, et on a peut-être pu donner l'impression qu'ils avaient une stature particulière dans le rassemblement. Ce n'est pas du tout le propos. Ils ont un rôle à jouer, mais ils n'ont pas une stature particulière, comme on pourrait le trouver par exemple dans les églises catholiques ou autres, où on a des prêtres, des choses comme ça. Et j'aimerais lire quelques versets où le Seigneur justement reprend peut-être un peu sur ces hiérarchies qu'on peut faire dans Matthieu 23. Je commencerai au milieu du verset 7. Appeler les hommes rabbi, rabbi. Alors c'est un terme pour dans le hébraïque pour parler d'un terme honorifique qu'on donnait à certains juifs. Mais vous ne soyez pas appelés rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ. C'est important, même s'il y a des personnes dans l'assemblée qui ont des rôles particuliers, ne jamais perdre ce lien direct. Ils sont là pour veiller, si des fois on s'égare, et pour nous rattraper de la part de Dieu. On a ce rôle à avoir, cette relation personnelle à avoir tous avec le Seigneur, et c'est lui qui nous conduit. Et vous, vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ.
À propos des conducteurs, je voudrais dire dans Hébreux 13, Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Et Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte. Verset 24. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Bien sûr, c'est Christ qui est le conducteur. Mais dans 1 Timothée, il est bien clair que les surveillants, les anciens, sont des conducteurs et ils cherchent le bien des âmes et sont soutenus ici par les prières des saints, puisqu'il est dit, verset 18 de Hébreux 13, « Priez pour nous », etc. C'est-à-dire, au fond, dans une assemblée en bon ordre, une assemblée locale, Dieu peut susciter des anciens, des surveillants, des conducteurs. La première chose, c'est de les reconnaître comme tels et de prier pour eux. Hein, c'est-à-dire, prier pour nous, verset 18, la nécessité donc de prier pour les conducteurs. Pourquoi faut-il prier pour les conducteurs? C'est-à-dire, il faut qu'ils aient cette vigilance sur les âmes des saints et il faut qu'ils soient aptes et capables, par leur expérience, de leur expérience avec Dieu, de conseiller, d'exhorter, de reprendre, et c'est-à-dire, au fond, faire l'office de pasteur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comme l'a exprimé Jacques tout à l'heure. Mais il nous est dit d'obéir à vos conducteurs, donc il faut les reconnaître. C'est-à-dire, le danger depuis mai 68, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de contestations dans le monde, et cette contestation et cette insoumission à toute autorité est visible autour de nous dans le monde, mais ici nous sommes dans la maison de Dieu où le bon ordre doit être maintenu et Dieu nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis ». C'est-à-dire même si à l'extérieur nous voyons cette contestation et cette désobéissance, eh bien dans la maison de Dieu, il faut reconnaître les surveillants, il faut reconnaître les anciens et les conducteurs. Et il nous est dit, verset 17 du chapitre 13, « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes ».
Simplement un verset en 1 Pierre 5. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles.
Pierre 5. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, avant d'en arriver au verset 5, il faut bien sûr lire les premiers versets. Donc l'apôtre Pierre ici, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, ils ne sont pas au-dessus du troupeau, hein, ils sont au milieu du troupeau. On a cité tout à l'heure acte 20, ils sont bien au milieu du troupeau, ils ne sont pas au-dessus du troupeau. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous et non pas au-dessus. Moi, je suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Le premier verset est vraiment remarquable, parce qu'il parle d'abord des souffrances de Christ et la fin après, c'est-à-dire quand la gloire va nous être révélée. Qu'est-ce qu'il y a entre les souffrances de Christ et la gloire qui va nous être révélée? Eh bien, il y a cette période de la grâce actuelle. Et donc on voit que l'apôtre Pierre exhorte pour cette période aujourd'hui, cette période de la grâce qui se situe entre les souffrances de Christ à la croix et cette gloire future et proche qui va nous être révélée. Et on a évoqué tout à l'heure ce 1 Pierre 5, donc il nous est dit de paître le troupeau. On doit bien sûr insister, c'est paître, c'est surveiller, c'est pourvoir aux besoins de ce troupeau, c'est le réconforter, c'est le nourrir, c'est aussi sans doute le soigner et le réchauffer. Et c'est une tâche toute vraiment remarquable et difficile, et spécialement aujourd'hui, de paître le troupeau de Dieu. Parce que il y a aussi des brebis qui sont rétives, et ça peut être un travail difficile. Et nous sommes exhortés, tout spécialement les anciens, les surveillants et les conducteurs, à paître le troupeau de Dieu, non pas par contrainte, mais volontairement.
Et on peut continuer là où tu t'es arrêté. Non pas par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais comme étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, le souverain pasteur, le Seigneur est présenté là comme le pasteur au-dessus de tous les pasteurs, de tous les bergers, de tous les anciens ou surveillants, sera manifesté, vous recevrez la couronne infétrissable de gloire. Et c'est après toute cette série de mises en garde, de dérives possibles, même chez un ancien, même chez un surveillant, qu'il est rappelé aux jeunes gens d'être soumis. On peut mettre en parallèle aussi, c'est solennel de penser à ces choses-là, mais je crois que si la parole nous les dit, il faut les relever. Dans la troisième épître de Jean, Jean doit parler de Diotrephe. J'ai écrit quelque chose à l'assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Voilà un frère qui voulait être le premier dans l'assemblée et qui ne recevait même pas les directives, les lettres, les exhortations de l'apôtre Jean. Donc, voilà, il y a tous ces caractères qui sont donnés en nous rappelant toujours notre fragilité à tous. Et je pense que là, ça nous fait embrayer directement sur le caractère suivant de 1 Timothée 3. Sobre. Tite le rend un peu différemment, et ça se presse presque de commentaires. Non adonné à son sens. Pierre, il parle de tempérance. Joignez cette chaîne de deux pierres, de tempérance. Il y a toute une série de termes là qui font un peu comme un éclairage de différents côtés de cette même pensée. Cette sobriété, tempérance dans Pierre, je crois qu'il y a une traduction anglaise qui le traduit par self-control. Alors le self-control, oui, ça va un peu loin parce que sommes-nous capables de nous contrôler nous-mêmes? Par la grâce de Dieu, il nous donne les ressources, mais ça donne bien l'idée de quelque chose, d'un contrôle permanent sur tout ce qui est du registre, je parlais tout à l'heure de la chair qui réagit, de tout ce qui est nos réactions, la réaction, une action face à quelque chose, la sobriété. La sobriété, bien sûr, ça s'applique aussi, un peu plus loin, il parle non adonné au vin, non batteur. Sobriété recouvre tous ces caractères-là, ou tout ce qui est de notre nature humaine d'un côté, simplement humaine, et de cette vieille nature qui est encore en nous, est tenue soumise à Christ. On a besoin de sa grâce. Et que ce soit l'ancien ou les jeunes gens de 2 Pierre, de 1 Pierre 5, on a toujours le même besoin de sa grâce et de son soutien, de cette grâce pour veiller, pour tenir dans cette marche sobre.
77.